dans le livre aux Ecclésiastes, livre de l'Ecclésiaste, pardon, chapitre 7 et verset 8. Ecclésiaste, chapitre 7 et verset 8. Merci aux musiciens. Merci à la chorale qui est venue à Saint-Gaudens la semaine dernière. Ils ont fait du bien à l'église de Saint-Gaudens et aux jeunes aussi qui ont participé aux invitations. On va remettre ça. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. La première partie du verset, puisqu'il y a tout un développement, toutes sortes de comparaisons avant ce verset et après, mais je voudrais me concentrer sur le début du verset 8 du chapitre 7 du livre de l'Ecclésiaste. Mieux vaut le début d'une chose que sa fin. Ah, qu'est-ce qui est marqué? Vous ne l'aviez pas encore trouvé. Pardon. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Matthieu, chapitre 24, verset 11. Vous veniez de trouver Ecclésiaste, on va dans Matthieu. Matthieu, chapitre 24, verset 11e. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Troisième et dernier texte, Psaume, chapitre 119, en entier. Non. Psaume 119, 112. Que ce soit une déclaration, une décision formelle de chacun d'entre nous. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. On le relit. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours et jusqu'à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et une décision dans notre cœur, j'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Amen. On a trop souvent tendance à regarder au passé. Qui est un peu comme ça, ayant la nostalgie du passé? Ça peut arriver, hein, à dire « Oh, autrefois, comme le disait mon grand-père, et voilà, autrefois, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. » Souvent, on peut avoir des personnes, peut-être les personnes âgées encore plus, vu qu'ils l'ont connu, dire « Oh, autrefois, et rester que sur le passé. C'est bien d'avoir des bons souvenirs? Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un avenir et un présent? Je crois. Et d'autres ont les yeux fixés que sur leur situation présente. Et peut-être traversent-ils une situation particulière, sont-ils dans des circonstances particulières, et ce qui fait qu'on a les yeux rivés sur le présent. Et tout va mal. Et on est là, on est dans notre souci. Ou alors, tout va bien, et on regarde que le présent. Et comme tout va bien, comme il a dit tout à l'heure, je croise les mains devant le roi qui vient. Non, il faut regarder, et l'Ecclésiaste nous invite à cela, à non seulement bien commencer, non seulement bien vivre aujourd'hui, mais aussi bien finir, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'Ecclésiaste va loin, il va dire, la mort vaut mieux que la naissance. C'est pas drôle de mourir. C'est un passage beaucoup plus difficile que la naissance, bien que la naissance soit pas facile non plus. Je dis ça pour les femmes, surtout. J'étais là aux trois premiers, je serai là normalement au quatrième. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre une naissance et une mort. Et l'Ecclésiaste va dire, la mort vaut mieux que la naissance. Autour du verset que j'ai pris tout à l'heure, dans les Ecclésiastes, verset 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont je finis est supérieure et plus importante à la manière dont je commence. Ouf, c'est rassurant. Parce qu'on commence tous pécheurs, finira-t-on sauvé? Ça, c'est une question. Pour le chrétien aussi, il y a une espérance. La fin vaut mieux que le commencement, parce que normalement, à la fin, on va où? Au ciel, c'est pas vrai? On va au ciel, on a une espérance, on a un goût dans notre vie, on a quelque chose qui nous tient en alerte parce qu'on sait que la vie ici-bas, c'est qu'un passage, c'est un voyage. Mais il y a une éternité là-haut et dans un endroit formidable. Comme le dit quelqu'un, plus de factures, plus de maladies, plus quoi que ce soit, plus de tout ce qui est douloureux, etc. Plus de tristesse, plus de larmes, il y aura de la joie. Le ciel, ça sera merveilleux et je veux y aller. Seulement, ça se prépare aujourd'hui. Et on ne doit pas regarder qu'à la fin, on ne doit pas regarder qu'au début. On ne doit pas regarder que maintenant, par contre on doit se rappeler que tout ce que je fais doit aller dans un but, c'est bien finir. Et nous, en tant que chrétiens, on sait que le but suprême, c'est de finir sauvé. C'est très important. Je vais vous donner deux images pour comprendre que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La première image, c'est un puzzle. Qui a déjà fait un puzzle? Moi, j'ai fait un puzzle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de dire que la fin d'un puzzle vaut mieux que le commencement? C'est plus joli, et puis en même temps, c'est plus facile hein, de regarder, de voir à quoi ça ressemble, bien qu'aujourd'hui on triche, parce qu'à la base, en 1790 à peu près, quand les puzzles ont été créés, il n'y avait pas le modèle à côté. On fouillait sans modèle, mais bon, il y avait 50 touches, hein. Il y avait 50 touches, il y avait 50 morceaux maximum, etc., et on le faisait sans modèle. Qui connaît le record du monde de puzzle en pièces, nombre de pièces? 32 256 pièces, pardon. 32 256 pièces. Ça fait pas mal. Et ils l'ont fait à plusieurs, et pour une cause, le Téléthon. Tiens, voilà. 32 256 pièces. Ça en fait pas mal. Heureusement qu'ils avaient le modèle. Sinon, ils y seraient encore. Heureusement. Eh bien, notre vie, c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle. Le commencement, elle est toute fragile, un petit peu plus petit à petit, notre vie se passe, et il y a des morceaux de vie, des morceaux de puzzle, il y a des passages de notre vie qui se complètent, etc. Et l'important, ce n'est pas un morceau, c'est l'ensemble. Est-ce que ça donne quelque chose de bon? Je vous ai donné un exemple, et cette nuit, je me suis tracassé à faire ça. Vous allez le voir, donc vous avez un puzzle. Vous n'allez peut-être pas le voir tous. Ici, il y a un visage, désolé, il n'est pas très foncé, il y a un visage de quelqu'un qui pleure. Peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on pleure. Et si je regarde qu'à ça dans ma vie, qu'est-ce que je vois? Juste de la tristesse, des pleurs, etc. Deuxième image, c'est quoi ça? Un couple, certes, qu'est-ce qu'il fait? Il se crie dessus, il se dispute. Quel couple ne s'est jamais disputé? Ça peut arriver. Si je regarde qu'à ça, peut-être qu'il y a des passages dans les couples, il y a des moments où c'est très dur. Vu le nombre de divorces aujourd'hui, c'est fou, je fais visiter ma maison pour le prochain puisque je la quitte, mais 90% des familles et des couples qui ont visité la maison, c'est des familles recomposées et tous divorcées. Je me souviens plus s'il y a un couple qui était ensemble, peut-être parce que je ne le savais pas, et ils ne me l'ont pas dit. Mais c'est à chaque fois des familles recomposées, c'est des couples divorcés, etc., etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments de dispute. Si je regarde qu'à ça, la vie, elle ne vaut pas grand-chose. Elle ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, une arme à feu. Est-ce qu'il n'y a pas des meurtres? La violence physique, des fois. C'est pareil. Un autre morceau, c'est quoi? Les addictions. L'alcool, la drogue, les médicaments, ou toutes sortes de substances qu'on peut avoir. Qu'est-ce que c'est? Le suicide. Les gens qui se suicident. Quand on voit tout ce qu'il y a autour. Et c'est fou de voir que quand dans une famille, il y a eu un suicide, la pensée, elle occupe beaucoup plus les autres. Et il y a des familles qui sont décimées comme ça parce qu'une personne a commencé. Et c'est comme une malédiction qui est dans la vie des gens. Puis la photo, la dernière, c'est pareil, on ne la voit pas bien, excusez-moi. Mais c'est une personne malade sur un lit, tout simplement. La maladie. C'est pas arrivé, la maladie. Si on regarde qu'à ces choses, la vie, elle n'est pas trop joyeuse. Et notre vie, des fois, c'est comme un peu ce puzzle. Il n'y a eu que des choses comme ça. Peut-être quelqu'un rentre dans cette salle, dans ce lieu de culte, dans cette maison de Dieu ce matin, et pour l'instant, il n'a vécu que des choses comme ça. Et j'aimerais qu'on voit la suite, parce que le puzzle n'est pas fini. Et dans une vie, il peut y avoir un changement. Jésus a porté la croix pour nos péchés. Il l'a portée et il a été cloué dessus. Comme il a été dit tout à l'heure, pendant la Sainte-Seine, pendant les chants, Jésus est allé jusqu'au bout de manière totalement volontaire. C'était la volonté de Dieu de venir au secours des hommes au travers de son Fils qui a donné sa vie et versé son sang. Pourquoi faire? Pour libérer. Ça, c'est un jeune homme joyeux. Parce qu'avant, peut-être il était triste dans ses addictions, tout cela, et quelqu'un de joyeux. Pourquoi faire? pour restaurer les couples. Et j'ai mis, il y a un bébé avec, hein. On fonde un foyer, on est heureux. Peut-être quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, c'est un sujet de dispute, un sujet de tristesse. Et je crois que Jésus, Dieu, est capable de donner une solution pour ces foyers. Une autre photo des enfants qui sont épanouis parce qu'ils sont aimés de leurs parents. Combien d'enfants sont abandonnés? Ils vont dans la rue toute la journée, jusqu'à tard le soir. Ils voient des choses qu'ils ne devraient pas voir. Ils entendent des choses qu'ils ne devraient pas entendre. Ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et le Seigneur, il veut mettre dans le cœur des parents une responsabilité, un amour pour les enfants, au point de les garder auprès d'eux et de les rendre heureux. Un épanouissement personnel. La vie sociale. Combien de fois on est seul? Et le Seigneur, il nous donne d'être une famille. Mais soyons là jusqu'au bout, de penser les uns aux autres. N'oubliez personne, d'accord? Ça, c'est quelqu'un pour qui on va prier, qui est malade, pour qui on va prier et qui veut être guéri. Papy. C'est des cœurs. Mettre l'amour, se sentir aimé et arriver à aimer les autres, même les ennemis. Et la dernière pièce du puzzle, ça va être le ciel, parce que ma vie s'arrête pas sur la terre. Le puzzle est complet une fois dans le ciel. C'est pas vrai? Ma vie à moi, vu l'espérance que Dieu me donne, elle s'arrête pas ici-bas. Elle va jusqu'en dans le ciel. Alors rappuie comme ça va être tout noir. Le puzzle, c'était la première image que je voulais donner. Vous avez compris un peu le sens? Si je regarde qu'il y a une chose dans ma vie, eh bien je vois pas l'ensemble. Dieu, lui, il a du recul. Lui, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Dieu, il voit tout, il a un plan parfait pour notre vie. Je crois que on est guidé par lui, il y a la souveraineté de Dieu et nous on avance. Il n'y a pas besoin de savoir est-ce que je dois mettre du sucre dans mon café. Il y a des choses qui se font naturellement. J'aime le sucre, j'en mets pas, ça me porte sur la santé, j'en mets pas, etc. C'est pas la volonté de Dieu, on la cherche de tout notre cœur, mais pas juste une fois quand on a une question. On la cherche chaque jour. Seigneur, guide-moi, que ta volonté soit faite. Que je la remarque ou que je la remarque pas, mais que ta volonté soit faite. Et des fois, il y aura besoin d'une direction particulière et je vais prendre plus de temps. Mais comme je prie tous les jours pour que sa volonté soit faite, comme je suis tous les jours candidat, le puzzle se dessine petit à petit. Et même si ça passe par des moments difficiles, le puzzle est en train de se construire. Le tout, c'est de remettre sa vie dans les mains de Jésus et de ne jamais la reprendre. C'est ça l'important. La deuxième image, c'était l'image qui suit. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau. Il existe un gâteau, une recette, ça s'appelle le gâteau marathon. J'ai prêché une fois en disant, la vie n'est pas un sprint, la vie chrétienne c'est pas un sprint, ça dure pas longtemps, on fait un gros effort et puis après c'est fini. La vie chrétienne, c'est comme un marathon. C'est comme un marathon. C'est long et il faut savoir comment courir pour arriver jusqu'au bout. Il faut y aller, économiser ses forces, se ressourcer pendant la marche, etc., etc. Ce gâteau a une recette incroyable. Je vais vous montrer. Alors premièrement, de la farine, 250 grammes. Du miel, 250 grammes. Lui, je le garde secret, on verra tout à l'heure. Du jus d'orange, un verre de jus d'orange. Et de la levure chimique. Okay. Si je prends ces ingrédients, un par un, si je regarde qu'une partie de ce gâteau, il y a quoi? De la farine. Qui a déjà goûté de la farine? Moi, j'ai déjà goûté la farine, vous n'êtes pas mort. Hein? Puis c'est pas bon, mais ça, c'est pas mauvais non plus, la farine. Bon, on fait des batailles de farine, mais à part ça, on a de la farine. Il faut de la farine. Mais la farine tout seul, ça fait du plâtre, et si j'en mange trop, voilà, j'ai la bouche. Du miel. Vous avez déjà pris du miel. Est-ce que c'est bon le miel? Ah, cette partie du gâteau, elle est bonne à prendre. Hein? Cet ingrédient, pas de problème, on le prend tout seul. La levure chimique. Qui a goûté la levure chimique? Je l'ai fait pour ce matin. Horrible, horrible, ne faites pas ça. Le jus d'orange, on en boit un peu tous les jours. Il n'y a pas de problème pour certains ingrédients, et il y en a un problème pour d'autres. Et l'ingrédient fatal, je vous le dis, je l'ai goûté, c'est le bicarbonate de sodium alimentaire. Qui en a déjà goûté? Ah, vous mettez ça sur la pâte à dents, sur le dentifrice, hein? C'est horrible. Qui veut tenter? Non, c'est bon. Ce matin, j'ai fait, je suis couru au début, pendant les premières secondes, ça va, puis d'un coup, ça devient horrible. Si je prends le gâteau et que je prends qu'un seul ingrédient, vous êtes d'accord que si je commence à faire la chose et que je goûte qu'un ingrédient et que je m'arrête en cours de route, je regarde qu'à ça. Il y a certaines choses qui vont être bonnes, il y en a d'autres qui vont être horribles au goût. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est pareil pour la vie, il ne faut pas regarder qu'à une chose. Il faut bien tout remuer, etc. Il faut bien mélanger le tout comme il faut, dans l'ordre. Je ne sais pas, je ne suis pas bon cuisinier. Mais en tout cas, il y a un ordre, il y a une manière de faire, etc. Mais il y a besoin de l'ensemble. Il y a besoin de tout. Et encore, quand j'ai tout mélangé, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est bon? Est-ce que mon gâteau est bon à manger? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Les? Des œufs? Non, cette recette n'a pas besoin. Et moi, je ne l'ai pas vue. Alors, soit ils m'ont menti, soit je ne l'ai pas vue. Non, moi, je n'ai pas vu d'œufs, moi. Oui, oui, on en met d'habitude. Écoutez, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se passe. C'est bizarre. C'est une recette bizarre. Allez, on va rajouter les œufs. Ça vous plaît? J'ai les miens à la maison. Et regardez, je mélange le tout, je prépare tout. Est-ce que c'est bon? Il manque quoi? Les œufs, quoi d'autre? Allez, si vous voulez rajouter du sucre, on va mettre du sucre. Le miel remplace le sucre, normalement. Eh, vous disputez pas, ça va. Quoi d'autre? Eh, la cuisson. Si je mets pas la pâte dans le four, ça va jamais donner un gâteau. Vous êtes d'accord avec moi? Qui veut passer au four? Moi, je suis passé au four. J'ai brûlé. Mais qui veut passer au four? Vous savez, quand est-ce qu'on passera au four? Parce qu'on va tous y passer. Pas nous, nos œuvres, d'accord. Il est écrit qu'on rendra tous compte pour nos œuvres et que c'est comme si toutes nos œuvres allaient passer par le feu. S'il reste quelque chose, j'aurai des récompenses. Si tout est brûlé, vous vous souvenez de ce que M. Goua a prêché il y a quelques dimanches, 2 ou 3 semaines? La paille, le foin, les pierres précieuses, l'or, l'argent, etc., le chaume. Il y a différentes choses. Et tout va passer à la cuisson. Et le gâteau qui en sort, c'est là qu'on pourra dire si c'est un bon gâteau ou si c'est un mauvais gâteau. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux l'enlever, hein. C'est bon. Vous comprenez? Tu peux débrancher. C'est important de ne pas regarder qu'au début, qu'au milieu ou qu'à une partie. Et peut-être quelqu'un ce matin passe par une partie difficile de sa vie, un moment délicat, un moment difficile. Et j'aimerais vous encourager à ne pas regarder qu'à un passage, mais à regarder comme Dieu regarde. C'est-à-dire avec ce regard de la foi, dire même si aujourd'hui c'est pas facile, même si hier ça paraissait mieux, même si demain je sais que plus tard ça sera mieux, eh bien écoute Seigneur, je te laisse toutes les commandes de ma vie. Et on fera le bilan à la fin et aujourd'hui je veux veiller sur la manière dont je traverse cette situation, cette circonstance. On va prendre quand même quelque chose de la Bible, hein. On va prendre la vie de Joseph. Joseph est un homme qui n'a eu aucune épreuve dans sa vie. C'est ça? Non. Joseph, donc son histoire est dans Genèse. Si on voulait lire toute son histoire, on en aurait pour à peu près 15 chapitres. Vous m'en voulez pas si je vous dis qu'on prendra quelques portions de ces chapitres. Joseph va naître dans un foyer où les deux mamans principales se disputent, se haïssent, sont jalouses l'une de l'autre, se font la guerre et se font comme une course au nombre d'enfants. Je m'en parle, ça. Parce que à la base, Jacob, vous vous souvenez de cette affaire, il va travailler pour son beau-père, pour un homme, et il demande la fille, il demande Rachel. Et le jour du mariage, qui c'est qu'il a? Léa. Il a une autre femme. Imaginez-vous, le lendemain, il se réveille, c'est pas la bonne. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il va aller, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas elle que j'ai demandé. Il va dire oui, mais comme ça se fait pas chez nous de marier la plus petite avant la plus grande, eh bien voilà, on commence par celle-là, mais travaille encore un peu, t'en auras deux pour le prix d'une. Enfin, deux, t'en auras deux, point. C'est complètement horrible cette affaire, c'est affreux. Dans le plan de Dieu, c'est un homme, une femme. Je le répète parce que de nos jours, même si on est tous d'accord en France, on a droit qu'à une femme, se marier qu'avec une femme en même temps, faut le préciser. Dieu, dans son plan divin, avait dit « Je veux un homme et je veux une femme. » Il n'a pas donné deux femmes à Adam. Il n'en a donné qu'une. L'exemple qui nous est donné, la recette, le modèle pour le puzzle, la recette pour le gâteau, c'est un homme, une femme. Et lui, il va se retrouver avec Léa, il va se retrouver après avec Rachel. Et comme dans tout couple bien conçu, quand il y a deux femmes, eh bien, il y a de la jalousie. Le pire, c'est que Rachel ne peut pas enfanter et que Léa a beaucoup d'enfants. Elle a des enfants, elle en a. Et Rachel, elle souffre dans son cœur. Et elle va prier pour avoir un enfant. Non pas parce qu'elle a juste envie d'avoir un enfant pour le cajoler. Bien sûr qu'elle aimera son enfant, j'en suis certain qu'elle voudrait. En tout cas, prendre soin de lui, etc. Mais il y a aussi cette notion, la vie est tronquée et malmenée parce qu'il y a cette situation de jalousie. Et quand l'enfant va naître, elle va dire « Mais Dieu m'a fait justice ». Est-ce que Dieu donne des enfants pour qu'on ait justice? Vous comprenez ce que je veux dire? Cet enfant est né dans une situation où il y avait la guerre. Et comme elles n'arrivaient plus à avoir d'enfants, et Rachel en a eu un deuxième, l'autre, elle a dit, oula, mais j'en veux un autre. Il se donne carrément les servantes. C'est horrible. Et Jacob va se retrouver avec deux servantes, deux femmes, plus les deux servantes de ses femmes, donc quatre femmes. Et quatre tribus d'enfants, j'allais dire. quatre groupes d'enfants. Des enfants de quatre femmes différentes. Et ça va créer des jalousies, etc. Et la vie de Joseph commence dans ce contexte-là. Un foyer où il y a des disputes. Je suis sûr que dans la maison, de temps en temps, ça devait crier entre les femmes. Et même entre Jacob et les femmes, parce que peut-être lui, il a essayé de gérer, j'en sais rien. Mais c'était la galère. Joseph arrive dans cette famille-là. Peut-être que quelqu'un, ce matin, dit, mais moi, si tu savais dans quelle famille je suis né. À la maison, ça criait. À la maison, ça se battait. À la maison, c'était pas facile. Il y avait de la jalousie, etc. Cette jalousie dans le foyer, dans le couple, le couple recomposé, ça s'est reporté sur les enfants. Joseph était même le préféré du père, puisqu'il l'a eu dans sa vieillesse, etc. Et ça a créé de la jalousie. Un foyer, vraiment, on n'aimerait pas y vivre. Je sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas y aller. Je sais pas si vous avez déjà pensé à ça. L'épreuve de Joseph commence dès le départ. Il arrive dans un foyer où il fait pas bon vivre. Et il commence sa vie comme cela, et tout va mal, et au point que on voit que ses frères, ils sont jaloux de lui, etc. Par contre, il y a un bon côté, c'est que Dieu lui parle et lui donne un encouragement, une vision, un songe encourageant. Dans Genèse 37, verset 2, on commence à parler plus particulièrement de Joseph. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, donc les femmes de son père, c'est-à-dire les servantes des femmes à l'origine, de Léa et de Rachel. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et lui, il n'arrange pas l'affaire. C'est un rapporteur. Et c'est ça. Israël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec cette affaire? Puisque la jalousie, il est dit que ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Qu'est-ce que ça fait des dégâts quand il y a de la préférence dans les foyers? Et il faut demander la grâce de Dieu pour qu'on arrive. Eh bien, ne pas en faire de préférence. Deuxième chose, j'ai dit, donc première situation, Joseph, il est dans un foyer, ça va très mal. Par contre, il a des visions, des encouragements de Dieu. Il a des songes. Il est dit, verset 5 et verset 9, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. C'est normal. Il eut encore un songe, verset 9, et il le raconta à ses frères. On voit que Joseph a quand même quelque chose de particulier, c'est que Dieu a le regard sur lui et lui communique des songes. Il a comme une promesse dans son cœur, un jour, ta famille, tu vois, ceux qui te haïssent, etc., ben, un jour, ils vont se prosterner devant toi. Je ne sais pas s'il en a mesuré la portée, je ne pense pas à ce moment-là, 17 ans. Troisième chose qu'on voit, troisième étape, c'est la jalousie le poursuit et on veut le tuer. Tellement ils sont jaloux qu'ils vont vouloir le tuer. Il est dit, verset 20, « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans les citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Tellement la jalousie est là, tellement l'amertume est là, qu'il veut le tuer, le jeter dans la citerne. Il est dit, verset 24, « Ils le prirent, le jetèrent dans la citerne, cette citerne était vide, et il n'y avait point d'eau. » Et on sait qu'ils ne l'ont pas tué, on sait qu'ils l'ont juste mis là, et après, qu'est-ce qu'il est dit, verset 28, « Au passage, des marchands madianites, Ils le tirèrent et firent remonter hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Vendu. Citerne. Vendu. Les Madianites le vendirent encore en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Imaginez-vous, aux alentours de 17 ans, Joseph est là. Il est haï de sa famille. Il vient dans une famille où il y a de la dispute, il y a des querelles, il y a de la jalousie. Lui-même en est la victime, lui-même est maladroit. Il fait des choses quand même qui attisent la jalousie, etc. Et même s'il a des songes, eh bien il est vendu par ses frères à cause de ses songes. C'est pas sa faute quand même. À cause de ses songes, il est vendu une première fois, vendu une deuxième fois. Il sait plus qu'il est esclave dans un endroit qu'il ne connaît pas, dans un pays qu'il ne connaît pas. Et il va arriver dans la maison de Potiphar. Si je regarde qu'à cette situation, Je dis, la vie de Joseph, elle ne vaut pas grand-chose. Les frères de Joseph, ils ne sont pas sympas. Quatrième chose, direction de la maison de Potiphar. Ça va mal, d'un coup ça va mieux. Même dans une maison en tant qu'esclave, son sérieux, sa droiture, sa manière d'être, son respect, sa crainte de Dieu, on le voit un peu après, lui donne une position. Il a la direction complète de la maison de Potiphar. Genèse chapitre 39, verset 2, il est dit: l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. On voit là, de mal, ça passe en bien. Enfin, un peu de répit pour Joseph, qui reçoit la direction de la maison de son maître, de Potiphar, au point que le maître n'a qu'une chose à faire, manger. C'est quand même de la confiance. Et comme si les épreuves ne suffisaient pas, qu'est-ce qui se passe? Qui sait ce qui est arrivé? La femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tenter Joseph et le pousser à coucher avec elle. Elle vient le tenter pour qu'il couche avec elle. Et lui, parce qu'il craint Dieu, il refuse, et au bout d'un moment, il va même s'enfuir. C'est un bon exemple pour nos vies. Des fois, il faut juste refuser. Mais si on reste dans la situation quand on est tenté, si ce n'est pas de Dieu, on risque un jour de tomber. Et des fois, ce n'est pas un mal et ce n'est pas de la lâcheté que de fuir. J'ai dû personnellement fuir des amis à une certaine époque de ma vie parce que ce que j'avais fait avec eux avant de donner ma vie au Seigneur était tellement moche que je ne voulais pas retomber dedans et je savais que si je restais, je risquais de retomber dans les mêmes travers. Et j'ai dû fuir. Ils ne l'ont pas compris tout de suite. Je leur ai dit ma position, pourquoi, ils ne l'ont pas compris. Mais ça m'a valu, moi, de pouvoir être libéré de beaucoup de choses. Il est tenté, il est trahi, même si ça ne suffisait pas de fuir. Elle va mentir, elle va dire, tu vois, elle va faire tomber son manteau. Elle va prendre son manteau, à lui, elle va le tirer par le manteau, il s'enfuit. Et ce manteau, elle va le poser, elle va hurler et faire croire qu'il venait pour la malmener et pour abuser d'elle. Elle va dire ça à son mari va la croire. Et son mari, Potiphar, va faire quoi? Il va l'envoyer en prison. De la citerne, il passe à la prison. Il est dit, versets 7 et verset 8, je vous lis ce que je viens de dire. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi, il refusa. Et versets 19 et 20, après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce qu'a m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Et quelqu'un peut-être dira, ah, c'est la prison du roi, ça doit être une belle prison. C'était la pire prison. La pire prison, c'est pas les prisons comme aujourd'hui, j'ai prêché en prison, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Mais le Seigneur est là. Et Joseph a ses yeux sur lui. Si on regarde juste à cette épreuve, on dit à quoi ça a servi d'être juste? À quoi ça a servi d'être droit? À quoi ça a servi d'avoir la crainte de Dieu, de vouloir obéir à Dieu, de vouloir respecter le maître sous lequel le Seigneur l'avait mis, etc. Voilà ce que Dieu va faire, il va être avec Joseph. Versets 21 et 23 du chapitre 39, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Chose extraordinaire quand même. De voir que dans la prison où lui-même est enfermé, soi-disant pour quelque chose de mal qu'il aurait fait, le Seigneur est avec lui, et les chefs encore y remarquent que lui, il est différent, que Joseph est différent. Et d'une situation malheureuse, il arrive en prison, il en sort quelque chose. Il arrive quand même à être le sous-directeur de prison. Quelque chose comme ça, je l'ai appelé comme ça. Ça me fait penser quand papa allait prêcher à la prison de Draguignan, on lui avait donné un double des clés de chaque cellule. Il ne sortait pas avec dans la rue, certes, mais à l'entrée, quand il rentrait, il se présentait, on lui donnait les doubles, il pouvait rentrer dans toutes les cellules pour prêcher l'évangile et pour témoigner de Jésus-Christ. Dans cette prison, alors qu'il a un poste à responsabilité, qu'est-ce qui va arriver ? Deux hommes qui étaient au service du roi vont se retrouver en situation en prison pour quelque chose que le roi n'a pas compris. Il les jette en prison et voilà que ces deux hommes vont avoir tous les deux un songe. Et Joseph va interpréter ces songes, va demander pardon à Dieu l'interprétation des songes. Et ça va l'aider à les aider à eux. Il est dit au chapitre 40, verset 7, « Alors qu'il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas Dieu, à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ça, c'est au verset 23. Entre-temps, Joseph demande « Pourquoi vous n'allez pas bien ?» Il leur raconte la signification du songe et un d'eux va se faire tuer, un autre va être rétabli dans ses fonctions, mais tout le monde, enfin le dernier, il va oublier Joseph. Joseph fait du bien et on l'oublie. Ça vous est jamais arrivé de rendre service ou de faire du bien et que la personne ne vous dise pas merci ? Ça a pu m'arriver de ne pas vous dire merci pour quelque chose, je vous demande pardon, et des fois ça peut arriver, mais... Vous êtes là, vous êtes en prison, vous faites du bien. La personne, imaginez-vous, vous donnez l'explication d'un songe, etc. Et la personne, elle vous oublie. C'est écrit que la personne, les chansons, a oublié Joseph. Il naît dans une famille, c'est catastrophique. Il est jalousé par ses frères, haï par ses frères. Il a des songes, ça lui porte préjudice. Ses frères veulent le tuer. Il est vendu et il est emmené loin. C'est comme si ça ne suffisait pas. On ment à son sujet. Il est en prison. Alors qu'il n'a rien fait. Et même quand il rend service en prison, eh bien, on l'oublie complètement. Ça en fait pas mal d'épreuves. Et ça n'a pas duré quelques mois, tout ça. Vous savez que ça a duré 14 ans, je crois. Quelque chose comme 13 ou 14 ans. Je fais une petite parenthèse au niveau des songes. Je pense que c'est important. Ecclésias chapitre 5, verset 2, je vous le lis, il est dit « Les songes naissent de la multitude des occupations. La plupart des rêves ne sont pas des songes que Dieu donne. » Ok ? Mais je le dis à l'Église parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de cultures où tous les rêves veulent dire quelque chose. Et dans les pays occidentaux, de plus en plus, les rêves, il faut apprendre à les interpréter. Et il y a des livres, j'ai des livres à la maison qu'on m'a donné, des livres pour interpréter tous nos rêves. C'est de la magie, c'est un piège, c'est de la superstition, c'est pas du tout de Dieu. D'accord ? La plupart des songes, la quasi-totalité des songes, sont le fruit de la multitude de nos occupations de la journée. Deuxième chose, il est dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtront la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître une vraie prophétie d'une fausse prophétie ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Aussi simple que ça. Si un jour vous entendez une prophétie, quelqu'un qui prévoit l'avenir, qui prédit quelque chose, si ça n'arrive pas, ça n'est pas de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui a parlé. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. C'était dans Deutéronome 18, versets 21 et 22. Jésus répondit, quand on lui demandait « Pourquoi tu parles en parabole ?» Jésus dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, on fait des rêves de toutes sortes de choses et on va demander à un chrétien, à quelqu'un d'autre, est-ce que vous auriez pas l'explication de ce rêve ? J'ai fouillé la Bible, j'ai pas encore trouvé un seul chrétien, une seule personne qui est en communion ou en relation avec Dieu, qui ait besoin de demander l'explication à quelqu'un d'autre. C'est des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui demandent l'explication à d'autres personnes. Mais quand on connaît le Seigneur nous explique à nous-mêmes l'explication de ce qu'il nous a donné, le songe. Et si on ne le connaît pas, si on ne comprend pas tout de suite, ça vient avec le temps. Et on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour qu'il nous interprète les songes ou les rêves de Dieu. Joseph va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ailleurs, il dira, et je ne l'ai pas repris, il dira, mais moi, ce n'est pas moi qui donne l'interprétation, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les songes les interprétations, etc. C'est pas à nous. Et il faut pas tomber dans ce piège. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui vont voir d'autres chrétiens, des pasteurs renommés ou moins renommés, pour dire, écoutez, j'ai fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis convaincu dans mon cœur que si Dieu nous parle au départ par une vision, il nous donne après de comprendre quelle est cette vision personnellement. Pierre a une vision sur le toit pendant qu'il priait, il n'a pas compris de suite, et juste après, il en a eu l'explication. Vous êtes d'accord avec moi? Veillons à ne pas tomber dans toutes ces choses qui peuvent être des pièges. La vie de Joseph continue, je vais bientôt finir. Il va être mis à l'épreuve et élevé, parce que Pharaon va faire un rêve. Et il va demander s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait l'interpréter. Il ne connaît pas Dieu, je rappelle. Et Genèse 41, versets 12 et 13, il est dit ceci. L'échansant, d'un coup, alors qu'il l'avait oublié, va se souvenir de Joseph. Il va dire, il y avait là avec nous, dans la prison, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Ce que Joseph avait dit, l'explication, c'est exactement arrivé. C'est comme ça qu'il a su que c'était vrai. Et au moment où Pharaon fait ce songe et que personne ne peut donner l'explication, cette personne, cet échanson, il dit, je me souviens de quelqu'un qui m'a déjà donné une interprétation. On pourrait le faire venir. Et c'est comme ça que Pharaon dit à Joseph, versets 39 et 40, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Je remets, entre-temps, Joseph va donner l'explication du songe à Pharaon. Il va lui dire qu'il y aura une famine, il y aura d'abord une abondance, et après il y aura une famine, voilà les choses que tu devrais faire pour être prêt. Il dit « Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison. » Et tout mon peuple obéira à tes ordres, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. D'une situation prison, on l'oublie, Joseph va arriver à être, comment on appelle ça, premier ministre, second du royaume d'Égypte. Quelque chose de fou, quelque chose de fou. Joseph va se retrouver à ce poste, et à quoi tout ça, ça sert? Parce que Joseph, dès le départ, quand même était quelqu'un, qui avait un contact avec Dieu, Dieu lui parlait, Dieu avait le regard sur sa vie, il a été béni de Dieu pendant toutes ces épreuves. Mais pourquoi autant d'épreuves alors? Pourquoi tout ça? Si vous relisez toute l'histoire de Joseph, si vous ne la connaissez pas, et même si vous la connaissez, relisez-la. Tout ça, ça va servir à retrouver les siens. Il y avait une épreuve aussi qui demeurait, il était loin de sa famille, et la preuve qu'il n'était pas en colère contre eux, c'est qu'il va les accueillir avec bienveillance. Ça aussi, c'est une attitude qu'on pourrait quand même recopier et prendre comme un exemple. Comment est-ce que je dois voir ceux qui m'ont fait du mal? Leur en vouloir, etc. Il y a quelqu'un dernièrement qui disait « Moi, pardonner jamais. » C'est se fermer la porte de la grâce, je crois. C'est dangereux de faire ça. Mais je comprends qu'on puisse arriver à le dire à un moment et dire « Mais j'arrive pas. » Et c'est normal de des fois pas y arriver. Mais est-ce qu'on n'a pas quelque chose, ou quelqu'un en tout cas, qui peut nous aider à y arriver? L'exemple de Jésus-Christ, qui a fait en sorte qu'on puisse être pardonné, nous qui sommes en vrai impardonnables. Il va y avoir les retrouvailles. Joseph commandait le peuple, et sa famille va venir du pays où ils étaient jusqu'en Égypte, parce qu'ils apprennent qu'il y a du blé là-bas, ils vont venir, et Joseph va leur donner de quoi nourrir. Il les reconnaît sur le coup, eux ils ne le reconnaissent pas, et il va prendre soin d'eux, il va tout manigancer quelque chose pour les obliger à revenir avec le père. Et puis il est dit au bout d'un moment... Chapitre 45, verset 1, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il y a ses frères qui sont là, et Joseph, au bout d'un moment, il est obligé de dire « C'est moi, je suis Joseph ». Il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en criant sur eux pour leur faire une multitude de reproches. C'est ça? Non. Il éleva la voix en pleurant. Et je suis sûr que c'était des pleurs de joie de retrouver sa famille, de pouvoir à nouveau parler avec eux. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Regardez ce qu'il arrive à dire. J'aurais pas réussi. car c'est pour vous sauver la vie, et la suite est encore plus forte, que Dieu m'a envoyé devant vous. Et tout ce qui lui arrivait, toutes les épreuves, tout ce qui arrivait, il savait que c'était Dieu qui le permettait. Pourquoi ? Parce que sa vie était dans les mains de Dieu. Qu'il était béni, qu'il était maudit, qu'il était en bonne situation, qu'il était en mauvaise circonstance, il avait choisi d'honorer Dieu dans toute sa conduite. Il avait la crainte de Dieu. Et à cause de ça, il peut dire, tout ce qui m'arrivait, au-delà de votre volonté à vous, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui m'a fait venir avant vous. Et peut-être quelqu'un ce matin, c'est beaucoup plus sérieux que toutes les images que j'ai données, peut-être que quelqu'un ce matin dit, mais pourquoi il m'arrive ci ? Et pourquoi il m'arrive ça ? Et pourtant, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai dit que je marcherai dans ses voies. Je me suis fait baptiser il y a quelques mois, peut-être. Et j'ai dit, je veux suivre Jésus, je m'engage devant tout le monde à le suivre. Alléluia, j'ai pleuré de joie tellement j'étais content de m'engager. Mais voilà que vient le désert. Voilà que je sens plus la présence de Dieu. Voilà qu'il m'arrive tel souci, tel problème. Voilà que telle difficulté, eh bien, pointe son nez. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut s'accrocher au Seigneur Jésus. Il faut pas baisser les bras. Et mon frère, ma sœur, ce matin, si vous êtes là et que vous étiez prêt à baisser les bras, parce qu'il y a une épreuve de grande taille peut-être qui est là sur votre vie, plus grande que vous comme une montagne, j'aimerais qu'on se rappelle que Dieu a créé les montagnes et que lui, il est plus grand que tout cela. Il tient la terre entière dans sa main. Ça veut dire que le sort de tout l'univers, c'est lui. C'est lui qui peut l'influencer. Il donne droit, il a droit de vie, droit de mort, il crée, il retire, il fait ce qu'il veut Dieu. Et il voudrait tellement qu'on lui fasse confiance et qu'on lui dise « Je veux te laisser guider ma vie. » Parce qu'il laisse le libre arbitre, même s'il pourrait faire ce qu'il veut. Il laisse le libre arbitre et chacun, par contre, recevra selon ses choix et ses œuvres. Et nous, on doit faire le choix de dire « Seigneur, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves, je ne veux pas regarder juste à aujourd'hui, juste à hier, juste à demain. Je ne veux pas baisser les bras, je veux dire « Seigneur, ma vie... » Peut-être qu'elle est faite de saisons, de passages mauvais, de passages difficiles, mais moi, je veux regarder à ton grand plan merveilleux. Et tu as dit que depuis toute éternité, tu avais prévu que Jésus viendrait pour payer pour mes fautes. Et ça me rassure. La Pâque a été préparée de toute éternité. Jésus, sa venue, sa mort, son salut, son pardon, et tout ce qu'il veut faire encore dans nos vies, c'est prévu de toute éternité. Et ça demeurera. Et dans l'éternité, on pourra contempler sa gloire. Et ça sera toujours nouveau. Je crois qu'on passera l'éternité à découvrir l'éternité, comme le disait quelqu'un dernièrement. Dans le mot éternel, on m'a dit, il y a le mot renouveau. Tout le temps, je découvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est M. Gou qui nous le disait dans le bureau. Tout le temps. Au bout d'un moment, on n'aura pas fait le tour. Hein. Ça y est, j'ai découvert la gloire de Dieu. Maintenant, je vais passer à autre chose. Non. Toute l'éternité pour contempler sa gloire et sa magnificence. Où est la clé dans la vie de Joseph ? Où est cette force qu'il a tenue ? D'où ça lui vient ? Qui peut me dire ? Tiens, la foi, ouais. Quoi d'autre ? La persévérance, oui. D'où lui vient cette persévérance ? Comment ? L'amour de Dieu, oui. D'où lui vient cet amour renouvelé malgré les épreuves ? Le Saint-Esprit. Regardez ce qui est dit. Genèse, chapitre 41, verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» C'était peut-être pas comme à la Pentecôte, comme depuis la Pentecôte peut-être, pardon, mais l'Esprit de Dieu reposait. Dieu avait le regard sur cet homme. Dieu avait le regard, la faveur de Dieu, l'Esprit de Dieu venait renouveler ses forces. Parce qu'il avait fait le choix de craindre Dieu. Vous savez, Joseph fait partie de ces quelques hommes dans la Bible dont il est dit que quand le père, et là c'était son père, l'a appelé pour faire une tâche, il a répondu « Me voici ». Il n'a pas répondu « Ils sont dans le désert, il fait chaud là-bas pour aller voir mes frères qui pèsent les brebis ». Il n'a pas commencé à se plaindre, il n'a pas dit « mais comment je vais me faire ?» etc. Il a dit « me voici ». Vous le lirez, vous relirez la vie de Joseph. Son père, il dit « fils, viens ici, tes frères ne sont-ils pas là-bas ? Va prendre de leurs nouvelles ou va leur porter ci ou ça, je ne sais plus, je ne peux plus vous dire. » Et il va répondre « me voici, me voici ». Et combien de fois nous on dit « oui d'accord Seigneur, mais ». Et on me rajoute « mais ». Et puis à la fin… Me voici, mais de telle heure à telle heure. Ça arrive des fois. Me voici. Si on a l'Esprit de Dieu en nous, on tiendra bon. Parce qu'il est écrit, vous recevrez une force, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Joseph est un témoin pour nous aujourd'hui, d'un homme, d'une femme, qui peut traverser les pires épreuves et tenir bon dans sa foi, et triompher à la fin, puisque Joseph va prendre soin de toute sa famille et pourvoir à leurs besoins. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vaincras. Parce qu'il est écrit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Il y a des ennemis partout, il y a le diable, il y a les démons, on le sait, on n'a pas à en avoir peur. On n'a pas à jouer avec ça non plus, certes, mais on n'a pas à en avoir peur si nous, on est en règle avec Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et la victoire, on l'aura, puisque le secours viendra en même temps que l'épreuve. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu te réjouiras. Il est écrit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jésus, ce n'était pas un homme triste. Ça vous surprend ? Mince, j'ai dit quelque chose, une bêtise là. Jésus n'était pas quelqu'un de triste. Vous allez dire, oui, mais il écrit qu'il était ému de compassion. Oui, mais il n'était pas triste de faire ce qu'il faisait. À un moment, il a été triste jusqu'à la mort parce que le péché était chargé sur lui. Mais la tristesse continuelle, rondondante comme ça, qui revient toujours et qui demeure, qui m'écrase et qui me tue, c'est pas la tristesse selon Dieu. Mon fardeau est doux et léger. Et Jésus s'est réjoui avant d'aller à la croix, pendant le repas de la Pâque. Jésus a chanté les cantiques. Jésus s'est réjoui de donner sa vie. Et aujourd'hui, il réjouit son regard, selon Ésaïe 53, de voir une postérité nombreuse. Et pour nous, il est dit, il a été oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, verset 3. Je crois qu'il y a vraiment une puissance et un besoin immense dans la personne du Saint-Esprit et que Dieu veut nous communiquer cette plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir le servir, tenir bon dans l'adversité, etc., etc. Peut-être quelqu'un regarde juste à une portion de sa vie ce matin, il est venu en regardant une seule chose et il a été découragé, il est déprimé. Peut-être quelqu'un passe par une épreuve longue, plus ou moins longue certes. J'aimerais vous dire, la vie c'est pas juste une pièce de puzzle. La vie c'est pas juste un ingrédient pour faire un bon gâteau, pour faire un beau puzzle. Il faut de tout. Il faut des pièces noires, il faut des pièces blanches, il faut des pièces selon ce que le dessein de Dieu a décidé d'avant. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un plan parfait et on ne doit pas regarder juste à une pièce du puzzle, on doit regarder à l'ensemble. Vous connaissez les tapis, comment on tisse les tapis ? On les tisse à l'envers, c'est horrible. Et d'un coup on retourne et de l'autre côté, c'est merveilleux. Cherchez et vous verrez cette image. Nous on voit qu'un côté des fois. Et quand on va s'élever, à la fin, quand on passera... Tout passera, toute notre vie passera par le feu. On dira, mais finalement, c'était bon. Finalement, c'était bon. Je suis passé par le feu, vraiment, physique, et je peux dire, finalement, c'était bon. C'était bon. Et peu importe l'épreuve qu'on traverse, si on la passe dans les mains de Dieu, si c'est pas de Dieu, on va en sortir vite fait. Si c'est de Dieu, il va être avec nous dans l'épreuve, comme pour Shadrach, Meshach et Abednego, le Seigneur, l'ange de l'Éternel, était avec eux dans le feu et dans la fournaise. Amen. On termine en demandant au Seigneur sa grâce. Notre Dieu Tout-Puissant, je veux te réclamer ta grâce pour que notre vision, notre manière de comprendre les choses de Dieu, notre manière d'interpréter les choses qui viennent de toi puissent être transformées, façonnées, renouvelées dans notre intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, mais aussi que nous puissions discerner ta présence même dans les épreuves. Tu n'es pas là juste parce qu'on te sent. Tu es là parce que tu l'as dit. Tu n'es pas là parce qu'on est les meilleurs. Tu es là parce qu'on t'a choisi. Et c'est en ton nom qu'on est là. Et dans notre vie, Seigneur, tu ne permets pas les épreuves pour qu'on soit écrasé, tué, découragé par elles. Mais si tu permets un jour une épreuve, c'est pour qu'on puisse la traverser avec toi, qu'on puisse en tirer quelque chose. Tu nous fais passer devant d'autres peut-être pour leur servir de témoignage. Tu nous fais passer devant d'autres peut-être pour les encourager, pour pourvoir leurs besoins. Seigneur, personne n'aurait voulu retourner en Égypte. Et toi, tu as prévu ce plan. Et tu as vu un homme qui était prêt à entendre ta voix. Tu as pu lui communiquer des promesses. Tu as pu lui communiquer des choses qui allaient servir aux autres. Tu as conduit toute sa vie. Et même s'il y a eu des hauts, même s'il y a eu beaucoup de bas, Seigneur, tu étais avec lui et tu avais le regard fixé sur lui. Et tu le fais triompher. Et de la même manière qu'il a pu régner sur le peuple d'Égypte en Égypte, Seigneur, sur ce monde, cette image du monde, nous savons qu'un jour nous régnerons avec toi sur ce monde et que ce sera merveilleux. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette parole ce matin que tu as voulu me donner, que tu nous donnes et que j'ai voulu apporter, Seigneur, que ces images, ces choses puissent rester dans notre cœur. Qu'importe l'épreuve, tu es avec nous et tu conduis toutes choses du moment qu'on te laisse conduire notre vie, qu'on la laisse entre tes mains. Que ton nom soit glorifié. Amen.